Louange et remerciement au Seigneur de ce que nous disons tout cela, de ce que nous pouvons chanter, de ce que nous pouvons croire et de ce qu'il en est ainsi. Même si nous chantions et disions ces choses, mais que ce n'était pas le cas, alors nos chants et nos paroles seraient vains. Mais les choses que la parole de Dieu dit sont telles que Dieu les a prononcées. Et nous pouvons nous y fier éternellement. Lorsque Frère Rousse a prononcé cette phrase, que la parole de Dieu nous touche personnellement et qu'elle a aussi quelque chose à nous dire, quand elle nous touche personnellement, tant que nous pensons encore qu'elle s'adresse à d'autres, nous restons bredouilles. La parole passe à droite et à gauche de nous. Et nous l'avons entendue, mais nous ne l'avons pas prise à cœur. Parce que nous l'écoutons pour les autres. Mais lorsque la parole nous parle directement et qu'elle nous touche, et qu'elle peut nous toucher, nous nous regardons dans le miroir de la parole et nous voyons, puis nous levons les yeux vers le Seigneur qui nous a aimés par grâce et qui nous a attirés à lui. Je dois remarquer qu'en ce moment, j'ai encore beaucoup, beaucoup de mal à me concentrer. Je suis reconnaissant à Dieu de m'avoir rétabli jusqu'ici, mais je connais mes limites et je demande votre compréhension. Si je parle lentement, c'est qu'il y a une raison. Et on m'a demandé aujourd'hui si je ne voulais pas traduire une prédication de Frère Branham. Ce n'est tout simplement pas encore possible. Avec tout l'amour du monde, ce n'est pas encore possible. La concentration nécessaire pour saisir chaque phrase, chaque mot et les traduire en même temps en allemand est trop importante. Ce n'est pas encore possible pour le moment. Mais nous avons déjà remarqué que nous sommes abondamment approvisionnés en prédication qui paraissent sous forme de brochures et que nous pouvons nous y plonger et cela devient de plus en plus puissant, de plus en plus imposant, de plus en plus puissant. Et quand la prédication sortira, trois sortes de croyants, nous aurons certainement un autre sentiment. Mais Dieu sait toutes choses et il aura certainement une église comme reste qui sera sans tache et sans rides, qui pourra persévérer jusqu'à la fin par la grâce de Dieu. Pas livré à nous-mêmes, ce ne serait pas possible. Eh bien, ce qui m'intéresse ce soir, ce sont les comparaisons dans les Écritures. Et nous en viendrons peut-être à ce que Frère Branham a dit ici et là pour comprendre de quelle manière Dieu parle et que l'on peut saisir non seulement la lettre, mais l'esprit de celui qui a parlé et le sens de ce qui a été dit. Dans le psaume 95, dans le psaume 95, nous avons si merveilleusement entendu parler de l'adoration et nous devons pas adorer Dieu en esprit et en vérité. Puis, tout de suite après, au verset 7, il est dit, « Car il est notre Dieu », psaume 95, verset 7, « et nous sommes le peuple de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. » Il nous conduit vers de frais pâturages et aussi vers de l'eau vive et qu'il le fasse ce soir par grâce. Ce n'est pas la pression que nous avons voulu donner à la parole de Dieu, mais la parole de Dieu est déjà toute puissante en elle-même et elle accomplira ce pourquoi elle a été envoyé. Si nous regardons principalement le Nouveau Testament, nous trouvons des comparaisons. Parfois, les mêmes mots utilisés dans différents contextes. Et nous pouvons souvent nous demander, permettez-moi de commencer par Jean 15. Jean 15, verset 15. Je ne vous appelle plus serviteur, car le serviteur ne comprend pas les actions de son maître. Mais je vous ai appelé ami, parce que je vous ai fait connaître tout ce que j'ai entendu de mon Père. Tout ce qui est encore écrit ici est tout à fait merveilleux. Mais ce qui me préoccupe en ce moment, c'est la parole « Vous n'êtes plus des serviteurs ». Mais, mes amis, car le serviteur n'a pas l'intelligence des actions de son maître. On m'a demandé une fois, justement à cause de cette parole, parce que le Seigneur a dit autrefois, mon serviteur m'a adressé la parole par mon serviteur. Et la personne concernée a simplement dit, écoute, si le maître s'est adressé à toi de cette manière, c'est que tu n'as pas de discernement dans ses actions, et etc., etc. D'une certaine manière, j'ai dû réfléchir au fait qu'il faut toujours comprendre la parole de Dieu dans le bon contexte et de la bonne manière. Si nous pensons à Paul, à la première épître qu'il a écrite, il dit par exemple dans Romains chapitre 1, verset 1, « Moi, Paul, serviteur du Christ, Jésus. C'est ainsi que le plus grand apôtre de tous les temps commence son épître. Et maintenant, comparons-les entre elles, laissons parler la parole de Dieu en allant plus loin. Ce n'est certainement pas la seule épître qui commence ainsi, mais il y en a plusieurs qui commencent de la même manière. Et il conclut même, ou est-ce dans la lettre aux Philippiens, peut-être, il y inclut même son confrère Timothée, et il est dit ici, Philippiens chapitre 1, verset 1, « Nous, Paul et Timothée, serviteurs du Christ Jésus, nous saluons tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, etc., etc. » Nous pourrions en fait ouvrir de nombreux passages bibliques, et notamment celui-ci, Dieu ne fait rien sans révéler ses secrets à ses serviteurs, les prophètes. Et nous pourrons ouvrir l'épître aux Galates et y lire que tant qu'un fils est mineur, il y a une différence entre lui et un serviteur. Et là encore, c'est le même mot que dans Jean 15. Il faut donc faire très attention au contexte et à la manière dont une parole de Dieu a été utilisée. Faire attention, comment est-ce que la parole de Dieu est utilisée. Où se trouve-t-elle? Ici, par exemple, Galates 4, verset 1. Galates 4, verset 1. Mais moi, je dis que tant que l'héritier est mineur, il n'y a pas de différence entre lui et un serviteur, bien qu'il soit le maître de tout. Donc, nous remarquons donc que le mot serviteur a été utilisé de différentes manières. Et c'est très important que nous le comprenions, mais ce n'est pas vraiment ce qui nous importe ce soir. Ce qui nous importe, c'est plutôt de bien comprendre la parole de Dieu, par exemple, Matthieu, chapitre 10. Matthieu, chapitre 10, verset 24, qui dit ceci. Un disciple n'est pas au-dessus de son maître, ni un serviteur au-dessus de son Seigneur. Un disciple doit être satisfait s'il est traité comme son maître et un serviteur comme son Seigneur. Comme je l'ai dit, ce n'est pas vraiment de cela qu'il s'agit pour nous, mais nous remarquerons tout de suite qu'il s'agit de choses tout à fait différentes que nous trouvons dans les sermons de Frère Branham, que nous trouvons dans les Saintes Écritures. Et il est très, très nécessaire, surtout à l'époque où nous vivons maintenant, de faire très attention à tout. Il y a une parole, excusez-moi, on me le rappelle à l'instant dans le prophète Daniel, chapitre 9, verset 23. Daniel 9, verset 23. Lorsque tu t'es mis à prier, une parole de Dieu est sortie et je suis venu te donner des informations car tu es un homme particulièrement aimé. Mais c'est maintenant qu'intervient la pensée qui doit être exprimée. Maintenant, sois attentif à la parole afin de bien comprendre la révélation. Il n'y a pas de compréhension de révélation divine sans prêter une attention précise à la parole. Mais même le respect ou l'observation attentionnée de la parole ne peut pas encore nous apporter à toi et à moi le succès ou le résultat que nous aimerions obtenir. Dans l'évangile de Jean, au chapitre 13, le fameux chapitre du lavement des pieds, il est dit ici, au chapitre 13, du verset 14. « Si donc, moi, le Seigneur et le Maître, je vous ai lavé les pieds, vous aussi vous êtes tenus de vous laver les pieds les uns aux autres. Car je vous ai donné un modèle afin que vous fassiez comme je vous ai fait. En vérité, je vous le dis. Le serviteur n'est pas plus grand que son Seigneur, ni l'apôtre plus grand que celui qui l'a envoyé. On pourrait continuer à lire, mais je m'arrête à cette parole pour la raison suivante. Parce que ces derniers temps, on a très souvent entendu l'expression « Nous restons, nous demeurons dans l'enseignement des apôtres ». Et d'une certaine manière, il s'agissait d'insinuer que nous étions en dehors de l'enseignement des apôtres. Et cela peut être donner cette impression quelque part et d'une manière ou d'une autre. Mais si nous prenons le témoignage global des Saintes Écritures, nous constaterons que nous sommes trouvés au milieu de la volonté et de la parole de Dieu. Si l'on devait maintenant poser très humblement et très simplement la question, où Paul a-t-il enseigné le lavage des pieds? L'un et l'autre devraient alors dire, oui, s'il vous plaît, un instant, je ne sais pas. Ce pourrait être la réponse. Et si nous avons un homme de Dieu, Frère Branham, dont je suis aujourd'hui et dans l'avenir, chaque jour plus convaincu qu'il était l'un des plus grands prophètes de Dieu qui a parcouru cette terre, avec qui la colonne de feu était depuis le jour de sa naissance. Et il témoigne lui-même en disant, peu de temps après ma naissance, la colonne de feu était suspendue au-dessus de moi. Ma mère et ceux qui étaient là m'ont dit comment elle est entrée par la fenêtre et a été suspendue au-dessus de moi. Cet homme de Dieu a dit, il y a trois ordonnances pour l'Église du Nouveau Testament, à savoir le baptême, le repas et le lavage des pieds. Si nous commençons maintenant ici ce soir et nous commençons seulement à faire des comparaisons, je dois le faire. Je suis intérieurement obligé de le faire, tenu de le faire, pour nous montrer que tout bavardage vide ronge comme un cancer et a un effet destructeur et ne sert pas à l'édification de l'Église du Dieu vivant. On pourrait, et c'est un point que je voudrais aborder en tout dernier lieu, mais c'est aussi une partie et nous mettrons encore en évidence toute une série de points au cours des temps à venir, dont l'un et l'autre diront peut-être encore un moment, les apôtres n'ont pas enseigné cela. Et si j'ouvrais ici le Nouveau Testament et demandais où les apôtres ont-ils enseigné qu'il faut donner la dîme et l'offrande comme dans l'Ancien Testament, aussi dans le Nouveau Testament. Où est-ce que les apôtres l'ont enseigné? Et alors, chacun d'entre nous, du premier au dernier, devrait dire que nous ne trouvons pas cela dans l'enseignement des apôtres. C'est-à-dire que dans les épîtres, tout ce qui a été enseigné dans tous les sermons que Paul a prononcé jusqu'au milieu même de la nuit, cela n'a pas été rapporté. Paul écrit à un moment donné, ce que je t'ai transmis oralement et par écrit demeure en cela. Nous n'avons donc que le cadre de ce qui nous a été fixé afin que nous ayons les points de repère. Mais si quelqu'un nous demandait quelque chose, il pourrait vraiment poser la question, oui, mais où est-ce que Paul a-t-il enseigné cela? Et puis un prophète de Dieu vient et dit que rien n'a changé, que le même Dieu qui a parlé dans l'Ancien Testament a parlé aussi dans le Nouveau et que les choses s'appliquent exactement de la même manière. Il est parfois allé très loin sur ces points et les a beaucoup, beaucoup soulignés. Et il y en a toute une série, mais avant de vous laisser en plein avant avec le point du lavage des pieds, je voudrais quand même lire la parole de Timothée où Paul écrit quand même qu'une veuve ne doit pas être inscrite dans le registre de l'Église à moins qu'elle n'ait été la femme d'un seul homme et qu'elle ait lavé les pieds des saints. Juste pour que vous sachiez que c'est écrit. 1 Timothée 5, du verset 9. 1 Timothée 5, verset 9. Une veuve ne sera pas inscrite sur la liste des veuves à charge de l'Église à moins qu'elle n'ait au moins 60 ans et qu'elle n'ait été la femme d'un seul homme et est bien attestée par les bonnes œuvres dans la mesure où elle a élevé des enfants, exercé l'hospitalité envers les étrangers, lavé les pieds des saints, porté secours aux affligés. Je n'ai lu cela que pour que vous sachiez qu'il y a là aussi un passage qui témoigne de ce que le Seigneur Jésus a ordonné à l'Église. Paul ne l'a pas défini de manière doctrinale dans ses lettres, mais peut-être dans ses discours oraux. Ici, cela nous est rapporté de manière gracieuse afin que nous sachions qu'il en a été ainsi et que cela s'est produit. Donc, si Paul entend comme de Dieu que le Seigneur a utilisé pour écrire la plus grande partie du Nouveau Testament et qui a également été utilisé d'une manière extraordinaire, a été utilisé par Dieu pour écrire beaucoup de choses. C'est parce qu'il a été utilisé par le Seigneur pour écrire la plus grande partie du Nouveau Testament. Par exemple, dans 1 Corinthiens 11, et je voudrais souligner très clairement qu'il a reçu des choses de Dieu et que parfois, il les a transmises telles qu'elles lui ont peut-être été révélées par l'Esprit. Il dit ici dans 1 Corinthiens chapitre 11, verset 23, 1 Corinthiens 11, verset 23. Car pour ma part, je l'ai reçu du Seigneur comme je vous l'ai aussi transmis. Il l'a reçu du Seigneur. Et c'est de cette manière, telle qu'il l'a reçu, qu'il l'a transmis. Mais il y a des points qu'il n'a pas reçus avec cette clarté ou peut-être pas comme une révélation. Et si je le dis ainsi ici ce soir, ce n'est pas moi, j'espère, d'une voix trop forte. J'espère pas d'une voix trop forte, mais il y a des choses qu'il a dites de lui-même. Nous le constaterons encore, en particulier dans 1 Corinthiens 7. Ici, dans le passage de 1 Corinthiens 14, du verset 34. 1 Corinthiens 14, verset 34, c'est ce qu'il dit, par exemple, en ce qui concerne les femmes. Et c'est de toute façon un sujet. J'aimerais vraiment qu'il n'existe pas du tout. Mais je me demande alors pourquoi cet homme de Dieu a abordé ce point précis encore et encore pendant 35 années consécutives. Et nous vivons à une époque où il y a une commission des droits de l'homme, où il y a une commission des droits de la femme. L'une a eu lieu à Helsinki. L'autre à Copenhague. Mais la question est, où est la commission des droits de Dieu? Où Dieu a-t-il droit de ses droits? Commission des droits de l'homme, c'est bien. Ils défendent les droits de l'homme. Commission des droits de la femme, c'est bien, ils défendent les droits de la femme. Mais la commission des droits de Dieu, c'est ce que l'on défend. Le droit de notre Dieu. Le reste, ce sont des choses humaines et nous pouvons le dire sans crainte des phénomènes temporels et je peux ajouter phénomènes de fin des temps. Ne faisons pas des choses grandes là-dessus. Ce sont des phénomènes de fin des temps. Le mot est émancipation, on ne l'entendait pas du tout avant. Aujourd'hui, tous les enfants savent ce que cela signifie. Tout est synchronisé. Mais où est l'ordre divin dans tout cela? 1 Corinthiens chapitre 11. Dieu, Christ, homme, femme. Ça, c'est l'ordre divin. Et nous devons nous y plier, nous y soumettre, nous y placer. Et je vous le dis, un jour, il sera manifeste que la désobéissance est comme le péché de sorcellerie. Un jour, cela sera révélé encore de notre vivant. Ici, dans 1 Corinthiens 14, du verset 34, il est écrit, 14, verset 34, 1 Corinthiens, que les femmes se taisent dans les réunions de l'Église, car elles ne peuvent pas avoir la parole, mais elles doivent se soumettre comme le prescrit la loi. Qu'est-ce que Paul avait à faire avec la loi? Il vivait dans la grâce. Christ était la fin de la loi, l'accomplissement de la loi. Et voici qu'un homme de Dieu, Paul, se présente et dit « comme la loi le commande aussi ». Bien sûr, on peut dire « loi », ici et « loi là », mais je suis convaincu. C'est ma conviction que Yahvé de l'Ancien Testament est Jésus du Nouveau Testament. La même personne que celui qui a parlé sur le mont Sinaï était le même que celui qui a parlé sur le mont des Oliviers. Avec la seule différence, dans l'Ancien Testament, dans le corps spirituel et dans le Nouveau Testament, dans un corps de chair. Fait chair, la parole s'est faite chair et a habité parmi nous. Mais le même, je suis le même Seigneur et personne d'autre. Or, s'il est dit ici dans ce texte, et oui, en tout sérieux, comme la loi l'ordonne. Donc, une loi n'exprime pas seulement un souhait. Auriez-vous l'amabilité de le faire? Ce n'est pas une loi. Une loi ordonne. Elle prescrit, elle ordonne et c'est tout. Une loi a une rigueur avec elle. Et ici, Paul dit, comme la loi l'ordonne. Ne souhaite pas, pas qu'elle le souhaite. Ne dis pas, s'il te plaît, mais comme la loi l'ordonne. Et puis, brièvement, mais il porte ensuite la chose à son point culminant ici en lisant peut-être à partir du verset 37. 1 Corinthiens 14:37. Si quelqu'un se croit prophète ou possédant un don de l'esprit, il doit savoir que ce que je vous écris ici est le commandement du Seigneur. Est le commandement du Seigneur. Si quelqu'un ne se sent pas seulement comme un simple membre de l'Église, mais si quelqu'un se considère comme un prophète, comme possédant un don de l'esprit, alors il doit, non pas ainsi il peut, mais il, ou bien il voudrait, mais il doit reconnaître que ce que j'écris est le commandement du Seigneur. Il n'a donc pas inventé les choses de toutes pièces, il n'en a pas fait un hobby, mais un loisir, mais sur la base de la révélation divine dans l'Église, il a établi les choses comme elles devaient être établies. Les choses deviennent de plus en plus sérieuses. Vous le verrez. Et à la fin, il ne restera plus aucune échappatoire par laquelle toi et moi puissions encore passer, même si nous le voulons. Dieu se mettra en travers de notre chemin par sa parole et ne nous laissera pas passer à moins que nous ne nous soyons penchés en dessous, pliés à sa parole. Nous entendons souvent l'expression « devenir une épouse, une épouse parole ». Que signifie une parole épouse? Une épouse parole. Et si nous sommes ici aujourd'hui, en ce lieu, et que nous allons aborder toute une série de choses qui ont été enseignées et que l'on ne peut pas lire d'emblée dans les Saintes Écritures, mais qui ont été enseignées. Mais si on a les yeux ouverts, on trouvera le lien avec tout ce qui est là et qui a été dit par grâce. Mais c'est justement adapté à l'époque dans laquelle nous sommes arrivés. Frère Branham ne l'a pas envoyé il y a 400 ans, mais directement à la fin des temps. C'est là que Dieu l'a envoyé. Il n'a pas été envoyé il y a 400 ans, mais maintenant. Et vous savez, si nous croyons que les passages bibliques qui se référaient à son ministère sont arrivés à leur accomplissement, alors nous n'avons qu'à lire clairement et lentement le chapitre 3 des Actes des Apôtres, au verset 21. Et là, il est clairement écrit. Laissez-moi le lire. Ici, je reviens encore sur ce seul verset dans Corinthiens, mais pour que nous le sachions, que le ministère de Frère Branham ne traite pas des enseignements qui remontaient seulement jusqu'au temps des apôtres, mais jusqu'à la Genèse, chapitre 1, verset 1. Et si nous ne comprenons pas cela, alors nous ne comprendrons pas le message. Ici, dans les Actes des apôtres, au chapitre 3, se référant à notre Seigneur et Sauveur, se trouvent ces paroles. Actes apôtres 3, verset 21. Lui, cependant que le ciel doit recevoir jusqu'au temps du rétablissement de tout ce que Dieu a annoncé par la bouche de ses saints prophète depuis les temps anciens. Si donc, ici, l'Esprit de Dieu, par la bouche de Pierre, au commencement de l'Église du Nouveau Testament, prédit ici la fin, il n'a pas dit ouin par l'Esprit que Christ doit demeurer dans le ciel jusqu'à ce que toutes choses soient rétablies comme elles l'ont été par la bouche des apôtres, des enseignants, des bergers depuis le début du Nouveau Testament. Mais il est écrit ici, noir sur blanc, jusqu'au rétablissement de tout ce que Dieu a annoncé par la bouche de ses saints prophètes depuis les temps anciens. Pouvez-vous dire amen à cela? Ça, c'est le message de la fin des temps. Pas seulement un retour en arrière jusqu'à une certaine partie et ensuite nous pouvons faire ce que nous voulons, mais une révélation totale. Une petite question, si quelqu'un en doute et ne croit pas que cela, et ne pensez pas que cela m'amuse à me tenir devant vous, pouvez déjà me croire que, et ça je vous demande, où Paul a-t-il parlé de ce qui s'est passé dans le jardin d'Éden? De la chute de l'homme. Où a-t-il expliqué clairement la chose à toi et à moi? Cherchez-les, ouvre les versets, et si tu les trouves, nous les lirons ensemble. Nous trouvons ces choses suggérées dans l'épître aux Corinthiens. Il dit à un moment, je vous présenterai à Christ comme une vierge pure, mais je crains que comme le serpent a séduit Ève, que vous ne soyez séduits vous aussi. Il connaissait déjà le secret. Il savait ce qui s'était passé. Mais nous l'a-t-il dit à toi et à moi, le même ange qui est venu? A pu-t-il dire, comme Frère Branham, le même ange qui est venu me voir le 7 mai 1946 est entré dans la pièce et m'a dit ce qui s'est passé le matin et ce qui s'est passé vers le soir, le matin avec le serpent, après la tombée de la nuit, avec Adam, le même jour? Est-ce qu'il y a eu un homme qui a pu dire cela comme clairement comme Dieu l'a demandé à notre frère Branham? Comme Dieu a chargé frère Branham de le dire, avez-vous vu Paul ou Pierre ou même parmi les prophètes? Dieu n'a-t-il pas dit que les choses devaient rester fermé et scellé et caché jusqu'au temps de la fin? Ensuite, elles seront révélées. Et maintenant, je demande, très honnêtement et sincèrement, je l'ai certainement écrit, mais qui osera s'asseoir en tant qu'individu, en tant que groupe, en tant que comité, pour juger ce que frère Branham a dit par ordre de Dieu, mandaté par Dieu? Qui osera le faire? Je dois me repentir d'avoir osé le faire. Et c'est pourquoi je dois subir cette amère leçon. Il y avait des choses qui ne me semblaient tout simplement pas très, très directes. Je n'avais pas la lumière là-dessus et je voulais dire jusqu'à ce que beaucoup pensent aujourd'hui. Et je les comprends. Je ne suis pas là pour juger. Si quelqu'un vient et dit ils sont restés dans l'enseignement des apôtres et cela va si loin que l'on dit même si un ange descendait du ciel et prêchait un autre évangile. Et soudain, on dit déjà, mais ce n'est pas l'évangile que nous avons entendu depuis que nous sommes croyants. Depuis que nous sommes croyants, nous n'avons pas du tout entendu ces mystères. Notre compréhension n'était pas du tout ouverte. Les sceaux n'avaient pas encore été brisés et le contenu n'avait pas encore été révélé. Qui sommes-nous au juste? Avons-nous compris l'époque dans laquelle nous vivons? Et la parole que Dieu nous a adressée? Et l'on peut citer les passages bibliques les plus pieux et pourtant passer à côté de ce que Dieu fait vraiment maintenant. Mais vous savez, ce n'est pas la première fois. Quand l'ennemi est venu à Ève, il a pris 99% de la parole de Dieu. 99% de la parole de Dieu. Il savait très bien ce qui était écrit. Eh bien, il a ajouté quelque chose à ce qui était écrit. Et c'est là que résidait toute l'affaire, toute la séduction. Et il y a maintenant un autre verset dans 1 Corinthiens, chapitre 14, et plus précisément le verset 38. 1 Corinthiens 14, 38. Mais si quelqu'un ne veut pas le reconnaître, lui non plus ne sera pas reconnu. Une parole très sérieuse. Pourquoi? Parce que Paul a exprimé un commandement du Seigneur. Il n'a pas seulement écrit une lettre, mais c'est ici, dans cette lettre, que se trouve la révélation. Frères et sœurs, quand Paul écrit une épître et qu'il dit « Apporte mon manteau ou je vais passer l'hiver ici et là » où je vais passer par Rome, ou ceci et cela. Nous savons que des choses terrestres sont aussi incluses dans les lettres. Mais lorsqu'il énonce ici un commandement du Seigneur, alors ce n'est pas Paul qui parle, mais c'est Dieu qui parle par Paul, qui ordonne directement et qui commande. Et ces choses doivent être prises en compte et suivies et mises en pratique. En particulier, si nous examinons 1 Corinthiens 7, vous savez, vous serez étonnés du nombre de fois où Paul dit de lui-même, « Ça, c'est moi qui le dis, pas le Seigneur. » Et tout à coup, il dit, « Ce n'est pas moi qui le dis, mais ça, c'est le Seigneur qui le dit. » Ici, à vos demandes, je réponds de telle ou telle matière, et il répond aussi aux questions qui lui ont été posées par écrit. Et puis, nous arrivons au verset 7, 1 Corinthiens 7, verset 7. Je voudrais certes que tous les hommes fussent comme moi, mais chacun a en cela un don particulier de Dieu, l'un d'une manière, l'autre d'une autre. Maintenant, le verset 8. Mais aux célibataires et aux veuves, je dis, oh, je suis tellement reconnaissant que Paul ait été si sincère, si honnête, si fondamental, jusqu'au plus profond. Il n'a pas fait de bêtises, il ne s'est pas comporté de manière spirituelle. Au-dessus de tout, là où il a parlé, il a dit, et là où Dieu a parlé, ou là où Dieu parlait, il le disait aussi. Il n'était pas aussi pieux que le sont de nombreux prédicateurs aujourd'hui à travers eux. Seulement Dieu parle encore et toujours, et toujours, et toujours. Eux-mêmes ne sont plus là. Ils n'ont jamais parlé d'eux-mêmes, n'est-ce pas? On ne les entend plus du tout. Peut-être que c'est le contraire, qu'on entend qu'eux et qu'on n'entend pas du tout Dieu parler par eux. Car cela peut aussi arriver. Paul dit ici, mais aux célibataires et aux veuves, je dis, ils font bien de demeurer comme je le dis, comme je le suis, moi aussi. Mais s'ils ne peuvent vivre dans l'abstinence, qu'ils se marient, car mieux vaut vivre dans le mariage que de s'enflammer. Quant à ceux qui sont mariés, j'ordonne. Vous lisez tous avec moi. Vous lisez tous avec moi. Ici, il est subitement, tout de suite, stoppé. Il est stoppé. Quant à ceux qui sont mariés, j'ordonne, non pas moi. Il dit, j'ordonne, non pas moi, mais le Seigneur. Est-ce que vous remarquez la différence? Pas moi, mais le Seigneur. Et ensuite, il exécute, il écrit ce que le Seigneur ordonne. Ensuite, verset 12. Verset 12. Quant aux autres, c'est moi qui le dis et non le Seigneur. Pour une fois, soyez sincères. Vous aussi, frères, qui participez au service de la parole. Et vous tous, où que cette bande puisse aller, qui aurait été aussi honnête et aussi sincère que ce Paul? Un si grand homme de Dieu. Il dit ici, quant aux autres, c'est moi qui le dis et non le Seigneur. En disant cela, il s'est totalement dévoilé. Il a ainsi exprimé, ce n'est pas le Seigneur qui parle à travers moi, maintenant c'est moi qui parle. Mais vous savez, je préfère un homme qui est illuminé par le Saint-Esprit, parle et dit, bon, ça c'est moi qui le dis, plutôt qu'un homme qui dit « ainsi dit le Seigneur » et que ce n'est pas le cas, ce n'est pas « ainsi dit le Seigneur ». Ainsi, et que ce n'est pas ainsi. Alors, nous savons toujours exactement en quoi nous en tenir. Et il est, et s'il est vraiment écrit ici aux autres, c'est moi qui le dis. C'est moi qui le dis. C'est moi qui le dis, et non le Seigneur. Je le dis même de moi-même, mais pas le Seigneur. Oh, quelle confession de foi est faite ici. Et cela va encore beaucoup, beaucoup plus loin. Au verset 25, mais pour ce qui est des filles, je n'ai pas de commandement explicite du Seigneur, mais j'exprime mon propre point de vue. Avez-vous déjà entendu Frère Branham dire « j'exprime mon opinion ou mon propre point de vue » Oui, Frère Branham l'a plusieurs fois dit, il l'a dit plusieurs fois. Il était aussi sincère que cet homme de Dieu ici présent. Dieu veut la sincérité. Un homme qui est sincère est plus agréable à Dieu que n'importe qui pense l'être et ne l'est pas. Ici, il a dit en effet, mais je n'ai pas de commandement explicite du Seigneur, mais j'exprime mon propre avis, mon propre point de vue, comme quelqu'un qui a obtenu la miséricorde du Seigneur, de sorte que je mérite la confiance. Vous savez ce que ces hommes de Dieu ont porté en vérité dans leur cœur avec véracité? Je veux en avoir une part, et si possible, tout ce qu'ils avaient. Je veux être aussi honnête et aussi sincère qu'ils l'étaient. Mais cela doit aussi venir de Dieu. On ne peut pas inventer ça, fabriquer ça, imiter ça. Récemment, un frère est venu me voir quelque part et m'a dit, « Frère Franck, priez pour moi, je n'arrive pas à être sincère. » C'est difficile. C'est très, très difficile. C'est toujours une chose très difficile ou très, très grave. Mais Dieu nous fera réussir par grâce. Verset 29. Mais je vous le dis, frère. Il savait exactement distinguer. Et l'Église savait exactement. Quand il dit dans 1 Corinthiens 11, 23, « J'ai reçu cela du Seigneur. Et c'est ainsi que je vous le dis. » Ainsi, chacun savait qu'il n'y avait plus rien à interpréter ici. Ici, on a reçu le Seigneur et on l'a transmis. Mais quand il dit, c'est un commandement du Seigneur, et celui qui ne le reconnaît pas ne sera pas reconnu, alors il savait de quoi il parlait. 1 Corinthiens 14, 38. Et il dit, si c'est moi qui donne cet ordre, non pas moi, mais le Seigneur. Donc, nous voyons bien à partir de chaque verset, de chaque contexte, nous voyons exactement et nous savons à quoi nous en tenir. Quel que soit le sujet dont il a parlé, il ne nous a pas laissés dans l'ignorance. Mais je le répète, nous allons aborder certains points et chacun devra prendre sa décision, qu'il le veuille ou non, il la prendra. Pas pour mon bien ni pour celui de qui que ce soit. Mais après tout, nous avons affaire à Dieu et à sa parole révélée. Et si un homme de Dieu pouvait dire et témoigner de qu'est-ce que c'était le 11 juin 1933, qu'environ 4000 personnes étaient présentes lorsque quelques 100 ont été baptisés dans la rivière Ohio et que la voix a retenti, comme Jean a précédé la première venue de Christ, ainsi tu es envoyé avec un message qui précédera le retour, la seconde venue de Christ. Alors, nous devons dorénavant accorder plus d'importance à cette affaire, à ce message, que nous l'avons fait jusqu'à présent. C'est vrai. Nous le devons à notre Dieu. Sinon, il aurait parlé à côté de nous et nous n'aurions même pas eu besoin d'écouter. Mais je crois que Dieu a des hommes qui écoutent sa parole. Et je vous le dis, je vous dis que la clarté ne vient que là où l'on écoute vraiment de tout son cœur, sous le coup de sa parole, la parole de Dieu, afin que l'Esprit de Dieu puisse la rendre vivante. Par aucune conversation, par aucun divertissement, on peut remuer les choses dans tous les sens pendant des nuits entières. La clarté ne viendra pas. Mais sous l'écoute de la proclamation de la parole de Dieu, le Saint-Esprit sera présent et c'est lui qui révélera la parole à ceux qui la reçoivent dans leur cœur. Si nous nous hâtons de penser à Apocalypse, chapitre 10, verset 7, le passage qu'on lit et relit sans cesse et qui attire notre attention, il est effectivement écrit au verset 7. Mais dans les jours où la voix du septième ange se fera entendre, où il sonnera la trompette, le mystère de Dieu se sera alors accompli, comme il a fidèlement communiqué à ses serviteurs, les prophètes, comme un joyeux message fiable. Dans ce passage non plus, il n'est pas question de choses qui seront communiquées aux apôtres, aux enseignants ou aux bergers. Pourquoi pas? Parce qu'en fait de compte, nous n'avons pas seulement affaire à de l'enseignement, à de l'évangélisation, pas seulement à de l'enseignement, mais à une prophétie biblique qui s'accomplira. Il y a quand même beaucoup de gens qui croient en l'unité de Dieu. Il y en a aussi beaucoup qui baptisent au nom de Jésus-Christ. Ils ne se comptent pas seulement par milliers, ils se comptent par centaines de milliers sur toute la terre. Mais où sont ceux qui acceptent la parole de l'heure par révélation divine, qui la reçoivent, la reconnaissent? Où sont ceux qui comprennent vraiment de quoi il s'agit maintenant? Bien sûr, on peut réveiller tous les chiens, puis ne plus savoir où l'on en est en utilisant des passages bibliques pieux, mais pas dans le bon contexte, en les utilisant, mais pas dans leur bon contexte. Je commande ce soir à tous ceux qui se réfèrent au ministère de Frère Branham d'utiliser les passages qui s'appliquent à son ministère lorsqu'il parle de son ministère ou qu'il se taise. Il ne peut plus en être autrement. Nous ne pouvons pas rouler sur deux rails en même temps. Et nous pouvons encore faire un pas de plus. Tout cela n'est qu'une introduction aux choses. Mais du prophète Malachi, nous l'avons entendu maintes et maintes fois. Savez-vous qu'il est plutôt écrit, voici, ou sachez que je vous envoie le prophète Élie. Il y a encore un verset avant. Et je suis très reconnaissant à Dieu que ce verset soit aussi écrit. Malachi 4, verset 4, verset 5. Malachi 4, verset 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur, à qui j'ai prescrit en Horeb des ordonnances et des lois pour tout Israël. Sachez bien, je vous envoie, Élie le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Verset 6, il fera retourner le cœur des pères vers les fils et le cœur des fils vers leurs pères, de peur que je ne vienne et ne frappe le pays de malédiction. Avant que la promesse du dernier prophète ne soit donnée, il est ici fait allusion par l'Esprit dans la parole prophétique à ce que Dieu a dit à Moïse et par Moïse. Et c'est pourquoi Frère Branham a toujours souligné que maintenant, dans les derniers temps, tous les mystères sont révélés depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse. Ou n'est-il pas le cas? Ou n'est-ce pas le cas? Nous l'avons pas lu dans toutes ces prédications. Et qui viendra dire, oui, mais que ce qu'il dit là n'est pas en accord avec l'enseignement des apôtres. Oh Dieu, aide-nous et fais-nous grâce de tenir notre langue en bride. Car un jour, il sera trop tard. Nous aurons franchi la ligne et nous n'aurons pas compris que nous n'avons pas affaire à un homme, mais à Dieu lui-même qui a parlé à travers cet homme comme ainsi parle le Seigneur. Et je l'ai entendu dire, et c'est enregistré et sans doute imprimé. Il a dit, je me méfierai et que je n'oserai pas dire ainsi parle le Seigneur. À moins que le Seigneur ne m'ait d'abord parlé réellement et ne me l'ait révélé. Il dit que pour rien au monde, quelqu'un ne pourrait me faire dire ainsi parle le Seigneur. À moins que Dieu n'ait parlé et ne me l'ait révélé. Et si après une prédication, il est écrit, voici ce que dit le Seigneur. Qui a encore quelque chose à dire? Qui a encore quelque chose? Qu'avons-nous encore à dire? Si Dieu a parlé, alors nous devons nous taire, écouter et recevoir et le remercier d'avoir parlé. Amen. Je pense que maintenant nous allons nous lever et prier. Parole importante, puissante ce soir. Nous sommes si heureux et si reconnaissants pour cela. Nous sommes si heureux pour la direction de ton bon Saint-Esprit, de la conduite pour la direction. Alléluia. Tu as donné la grâce de parler. Tu nous as donné la grâce d'entendre, Seigneur. Et ainsi nous sommes bénis, Seigneur, par ta sainte parole, Seigneur. Et je suis si heureux, Seigneur. Et je crois que nous tous, Seigneur, nous sommes si heureux et si reconnaissants, Seigneur, que tu aies parlé de cette manière, que tu aies utilisé mon frère, que tu l'aies béni. Merci à toi, Seigneur. Tu continueras à bénir, Seigneur. Tu nous as toujours bénis. Seigneur, alléluia. Depuis ton sein, soit apporté à ton saint nom la louange au milieu de nous. Seigneur, que ton nom soit sanctifié. Alléluia. Gloire et honneur. Action de grâce, remerciement et adoration à toi, le Dieu vrai et véritable et fidèle. Alléluia. Amen.